cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo, Jacques le disait avec vous donc pour Sporama. Ravi de vous retrouver. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Nkwatine depuis Boyoukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les amis auditeurs de la VOA Africa.
Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Sy à Columbus, dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous parlons ce soir de Ligue des Champions. Les vainqueurs sur le continent et en Europe sont connus. Il s'agit d'Al Ahly d'Égypte et de Manchester City. Nous évoquerons également l'intérêt particulier de l'Arabie Saoudite pour les stars du football. Et pour finir, nous parlerons de la NBA avec la possible consécration ce soir de Denver qui mène 3-1 avant le match numéro 5 ce soir donc. Mais avant de développer tout cela, nous rendons hommage à un dirigeant du football italien. Silvio Berlusconi est décédé des suites d'une leucémie à 86 ans. L'AC Milan, dirigé pendant plus de 30 ans de 1986 à 2017 par Silvio Berlusconi, salue la mémoire de son inoubliable ancien patron, pleuré également par l'AC Monza, club qu'il détenait depuis 2018 et tout le football italien. Merci président, a ajouté le club milanais qui, sous le règne du Cavaliere, a raflé 29 trophées dont 5 Ligues des Champions et 8 titres de champion d'Italie. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rendu hommage à un visionnaire qui, en matière de football, avait tout prévu bien avant les autres. Alors Jules, qui de mieux que vous hein, pour nous parler de ce que vous retenez de Silvio Berlusconi comme dirigeant de football?
Oui, il faut le dire, c'est un grand du football mondial qu'on vient de perdre, là, il y a un précurseur. Et homme politique de premier plan, il n'a pas hésité à donner la priorité au football pour son projet général et les résultats qu'il a eu sur le terrain sont éloquents. Le Milan a régné sur le football mondial et européen dans les années 90 avec des joueurs de haut niveau comme Gullit, Van Basten, Rijkaard, des grands entraîneurs. Et à tous les coups, ce Berlusconi était là pour donner toujours le coup de pouce et l'orientation qu'il fallait. Et il faut aussi retenir que pendant ces dernières années, il a réussi à créer encore un autre club de football, Monza, qu'il a ramené à la Serie A et à un bon classement. Et donc on peut dire qu'une seule chose, c'est que c'est un grand qui s'en va et ciao champion.
Voilà, que Berlusconi repose donc en paix, un repos bien mérité sur le terrain, je le disais. Al Ahly s'est offert sa 11e Ligue des Champions. Le club égyptien a remporté dimanche la finale en faisant match nul, un but partout en match retour donc contre le Wydad Casablanca, champion sortant une semaine seulement hein, après son succès 2-1 au Caire. Au cœur hein, d'une première période, il faut le reconnaître, à sens unique, les Marocains portés par un Stade Mohamed V incandescent ont ouvert le score hein, sur un coup franc à 12 minutes de la fin sur un corner. Le défenseur central Mohamed Abdelmonem Al Ahly a poussé le ballon au fond des filets d'une tête décroisée en pleine lucarne. Déception pour l'attaquant sénégalais du WAC, Boly Sambou Junior, qu'on écoute tout de suite.
C'est effectivement, on a raté le titre. Donc un titre à qui voilà, on voulait le donner à notre public, à notre serment public. Mais là, les dieux du foot aujourd'hui n'étaient pas avec nous. Malgré on a tout donné, on a essayé de faire notre mieux pour essayer de satisfaire notre public. On dirait Alhamdulillah, malgré on l'a perdu. Mais Dieu merci, on va aller redoubler davantage pour essayer de terminer la saison en beauté, Inch'Allah, et essayer de sauver la saison avec les trophées qui restent.
Boly Samba Junior, attaquant sénégalais du Wydad Casablanca, au micro, d'Amine Birou, que nous retrouvons aussi.
Expérience, roublardise, vécu égale Ali. C'est une équation qui revient régulièrement dans les compétitions continentales puisqu'il s'agissait de la 6e finale en 7 éditions du club égyptien qui a réussi à tirer son épingle du jeu dimanche soir à Casablanca face au Wydad au terme d'une rencontre hachée avec de très nombreuses interruptions. Un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Les Ouidadi avaient attaqué la rencontre tambour battant, encouragés par le but à l'extérieur qu'ils avaient réussi au Caire. Et leurs efforts ont été concrétisés à la 26e minute sur un coup franc parfaitement dosé par l'arrière-gauche international marocain Yahya Atiatallah. Un but qui faisait exploser de joie les 50 000 personnes présentes au complexe sportif Mohamed V. Le Wydad était très proche de son quatrième sacre continental, le deuxième consécutif. Encore fallait-il gérer la deuxième partie de cette confrontation. Et on a vu alors une équipe égyptienne qui a réussi son coaching et qui a réussi petit à petit à grignoter le terrain perdu. Et surtout, il y a eu une incompréhensible ou un incompréhensible recul et spéculation de l'équipe marocaine qui s'est mis à jouer la montre. Et du coup, les Égyptiens se sont enhardis. Ils ont bénéficié des meilleures occasions. Et le coaching aidant, on finit par égaliser à la 77e minute sur un coup de tête après un corner d'Abdelmonaim. Un but suffisant pour déstabiliser l'équipe marocaine qui a eu par la suite 20 minutes devant elle pour pouvoir au moins aller à la séance fatidique des tirs au but, mais sans gros danger par rapport au gardien Chinnaoui, hormis un corner et une reprise de la tête du Congolais Zola en dehors du cadre. L'équipe d'El Ahly remporte son 11e sacre continental. Une équipe qui a réussi à gérer les moments les plus critiques de la saison. Il faut rappeler qu'à un moment de la compétition, l'Ahly était quasiment out de la phase de groupe. Et il s'en est fallu d'un pénalty manqué par les joueurs des Soudanais d'El Hilal devant Mamelodi Sundowns pour donner une nouvelle vie aux hommes du Suisse Marcel Koller. Ces derniers l'ont saisi à bras-le-corps et ont réussi à aller au bout de leur rêve continental. Ils prennent leur revanche sur le Wydad qui les avait battus lors des finales 2017 et 2022. Et ce n'est que justice pour une belle génération de joueurs égyptiens. On peut penser au gardien Chinnaoui, au défenseur Abdelmonaim, au joueur international arrière-gauche tunisien Ali Maloul, mais également un des joueurs du calibre de Afcha, de Amar Souleya, et de l'attaquant Kahraba, qui reste sous le coup d'une possible suspension de la FIFA, eu gare au litige qu'il a avec son ancien club Zamalek. En tout cas, l'Ahly n'a pas volé son titre. Le Wydad va devoir rassembler ses forces parce qu'il va se lancer dans le sprint final de la Botola marocaine, un titre que l'équipe du Wydad aimerait conserver pour la troisième année consécutive. Mais il va falloir tout de même se remobiliser mentalement pour pouvoir rebondir sur d'autres challenges, des challenges qui attendent le club marocain d'ici la fin de la saison.
Voilà, qui est bien dit sous les yeux du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Le club Keroz a fait le dos rond, Amin le disait, refusant le jeu et se contentant de défendre avec un bloc bas contre les assauts répétés, mais quand même désordonnés des Ouidadi. Alors, Élisée, est-ce que les Marocains ne se sont pas fait prendre tout simplement dans leur propre piège? Élisée, vous m'entendez? Donc, je retourne la question à Jules Valentin. Oui, allez-y, Élisée.
Oui, je disais que vous avez raison, puisque on les a vus à l'aller, ils étaient littéralement dominés, ils ont profité d'un temps mort de la part des Égyptiens pour inscrire le but qui pouvait leur donner espoir. Maintenant, à domicile, eux aussi, ils ont littéralement dominé cette rencontre de bout en bout avec une pression énorme, ce que les Égyptiens ont subi. Et après l'ouverture du score, on a senti que les Marocains voulaient mettre un second but parce qu'ils connaissaient bien ces Égyptiens, mais c'était sans compter dessus. Cette détermination, surtout le latéral gauche tunisien Ali Maloul, qui était très dangereux dans cette rencontre, surtout sur les coups de pied arrêtés. C'est à ce niveau-là où les Marocains se sont montés fébriles et sur encore un coup de pied arrêté, bien sûr, Mohamed, le défenseur qui a mis le ballon au fond des filets, ils se sont fait prendre à leur propre piège, il faut le dire, puisqu'ils voulaient littéralement remporter le match sur deux buts d'écart, prendre l'avantage sur deux buts d'écart, mais c'était sans compter sur ces Égyptiens qui sont venus de très loin. Amine l'a dit, ils étaient presque éliminés en phase de poule et ils se sont remis en confiance en demi-finale, ils ont littéralement dominé leur adversaire. On pensait qu'à l'aller, ils allaient maîtriser, remporter ce match au moins par 3 buts d'écart, compte tenu de la physionomie du match. Au retour, les Marocains avaient l'avantage. Ils avaient aussi la chance de marquer d'autres buts, mais se sont fait prendre par leur propre jeu, à leur propre piège, j'allais dire, à Yacouba. Dommage pour les Marocains. Ils vont bien sûr se renouveler vite pour pouvoir remporter le titre de champion de leur pays.
Alors, Amdine, refuser de jouer quand ils ont un avantage quelconque au sport, on va dire que c'est finalement la marque des équipes maghrébines.
Oui, tout à fait. Ils ont l'habitude de faire ça, que ce soit à l'Ahly, à l'aller, que ce soit au retour. C'est comme ça. Moi, je ne comprends pas ce comportement des joueurs expérimentés. Quand on mène au score, ce qu'on a fait pour mener au score, on peut le faire pour essayer d'aggraver la marque et être en sécurité. Mais tu ne le fais pas, tu as un but d'avance, tu essaies de gérer, tu encaisses un but. Après, tu fais une attaque à outrance. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Moi, lorsque j'ai regardé la finale des U17 entre le Sénégal et le Maroc, c'était comme ça. Lorsque les Marocains ont marqué en début de rencontre, ils se sont mis à gérer le temps, Et lorsque les Sénégalais ont égalisé et marqué le deuxième but, les Marocains ont jeté leur bâton pour pouvoir égaliser. Je ne comprends pas, donc il faut vraiment conscientiser les joueurs. Un match, c'est 90 minutes plus les temps additionnels. Donc quand tu mènes au score, il faut continuer à jouer. Ça, on le voit qu'avec presque les clubs maghrébins, je ne comprends pas pourquoi. On ne le voit pas en Europe, on ne le voit pas en Afrique subsaharienne, mais je ne comprends pas. Mais j'espère qu'ils vont quand même prendre les leçons pour apprendre de leurs erreurs, parce que ça fait mal quand même, parce que ce match était à leur portée. Le WAC avait les moyens, vraiment. Le WAC était supérieur à cette équipe d'Al Ahly, mais l'expérience a fait que les Égyptiens ont pu quand même égaliser et gérer aussi pour pouvoir rencontrer et s'offrir un 11e sacre, Yacouba.
Justement, alors, Jules Alali, 11e sacre, on va dire que le club Kairot domine plus que jamais le football de club sur le continent.
Oui, bien sûr, sur le plan général, dans la durée, mais aussi dans le présent, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un remake de la finale de l'année passée, mais que Alali l'avait raté tactiquement, et puis ses joueurs étaient saturés par un certain nombre de compétitions. Mais là, l'équipe égyptienne est montée en puissance au fur et à mesure les compétitions s'égrenaient devant elle, et elle a présenté une formation très, très tonique en attaque, où Al-Sharaf et Persito et Karaba font des dégâts aux défenses adverses, et même au match aller, ils auraient pu prendre de l'avance et faire le break à 3-0. Et le but assassin qu'ils ont encaissé a peut-être endormi un peu les Marocains, qui sont revenus dans leur péché mignon, comme on l'a dit tout à l'heure, l'attentisme, le jeu parcimonieux, compter sur les coups de pied arrêtés, etc., trop de calculs. Bon, mais en fin de compte, Al Ahly mérite bien sa victoire et son retour au sommet de l'Afrique.
Voilà, Al Ahly de retour donc au sommet de l'Afrique. Ne bougez pas, vous suivez Sporama, suivez Ouafrique. L'émission revient dans quelques secondes. Ligue des champions, toujours, mais cette fois-ci en Europe. Manchester City s'est enfin offert une place parmi les grands d'Europe, en arrachant face à l'Inter Milan 1-0 samedi en Istanbul, la Ligue des champions rêvée. Élysée, l'ultra favori anglais, a peiné quand même contre les Interistes, mais ses efforts ont été récompensés finalement par un but tardif de Rodri à la 68e minute.
Oui, Rodri qui a permis à Pep Guardiola de remporter une autre Ligue des champions avec un second club, puisque les deux premiers ont été remportés avec le FC Barcelone. L'Inter de Milan, à qui il a manqué de réalisme, puisque les Interistes ont fait déjouer complètement les Mancuniens, qui déjà avec cette pression, puisque ne nous l'aurons pas, c'était le Manchester City était largement favori sur le terrain, sur papier j'allais dire, mais sur le terrain on a vu autre chose. Les Italiens avaient l'occasion de marquer avec Lorato ou encore avec Edin Dzeko, même au moment où ils étaient menés 1-0, Lukaku aussi avait la possibilité de rétablir, de ramener les deux équipes à égalité, mais on a senti cette stabilité au niveau offensif de la part des Italiens. Pep Guardiola a remporté enfin la Ligue des Champions. Tant convoité, il fait partie de ce cercle fermé des entraîneurs qui l'ont remporté avec plusieurs clubs. C'est-à-dire que c'est le moment opportun. City a investi plus d'un milliard de francs de livres sterling, j'allais dire, pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Cela fait déjà plus de 6 ans que le club court derrière le trophée, enfin c'est la bonne. On ne peut que féliciter Pep Guardiola qui a mené très loin cette équipe, déjà finaliste il y a quelques années, le doute planait, enfin c'est la bonne. City a remporté le trophée en succédant au palmarès le Real Madrid qui l'a battu en demi-finale.
Alors Jules, il y avait un Africain sur le rectangle vert, Riyad Mahrez du côté de Manchester City n'a pas finalement fait son entrée sur la pelouse. Par contre, André Onana, le gardien international camerounais de l'Inter de Milan, a joué les 90 minutes. Comment appréciez-vous sa prestation?
Oui, mais André Onana est un des meilleurs gardiens du monde au pied. Il a démontré encore lors de cette rencontre où il participe activement à la sortie des balles et à l'animation, la première animation collective, ou alors il casse les lignes en faisant des dégagements très précis au profit de ses attaquants qui sont en pointe et qui se retrouvent du coup en supériorité numérique. Son rôle tactique est vraiment très décisif dans cette équipe et je crois que c'est un gardien qui a appelé à progresser encore plus, surtout qu'il se met à faire aussi des exploits sur la ligne avec des arrêts quand même difficiles. Donc c'est un gardien du présent et de l'avenir.
Absolument. André Onana, il faut le rappeler, qui fait partie du 11 type donc de la Ligue des Champions 2022-2023. En tout cas, toutes nos félicitations à cet international camerounais, à qui on souhaite bien sûr le retour glorieux en équipe nationale. Alors Amdine, c'est une consécration aussi pour Pep Guardiola. Élisée le disait, 12 ans après son dernier sacre barcelonais, mais surtout pour Manchester City, dont le propriétaire depuis 2008, Cher Mansour, membre de la famille royale émiratie, a investi près de 2 milliards d'euros en tout cas dans sa quête de la coupe aux grandes oreilles.
Tout à fait. C'est d'abord un sacre du football spectacle, un sacre quand même de la stabilité aussi, puisque Pep Guardiola a été recruté en 2016. Malgré les échecs, ils l'ont laissé travailler et cela a porté ses fruits. Vous l'avez dit, c'est un sacre de Pep Guardiola. Tous les jours qui ont signé à City, c'est Pep Guardiola qui les a fait venir. Le football spectacle, c'est Pep Guardiola. La profondeur du banc, c'est Pep Guardiola, puisque les gens l'oublient. Lors de la finale, on avait Walker sur le banc, on avait Foden sur le banc, on avait Mahrez sur le banc, on avait Laporte sur le banc et Alvarez, etc. Donc tout ça, c'est Guardiola. Et puis ce ne sont pas des joueurs bling-bling comme le font certains clubs. Je veux suivre mon regard, je veux parler
Paris Saint-Germain.
Donc Pep Guardiola, c'est quelqu'un qui est méthodique, qui travaille bien. Malheureusement, lorsqu'il a quitté le FC Barcelone pour aller au Bayern, les Allemands n'ont pas quand même su lui donner le temps de faire ce qu'il voulait. Mais à City, on lui a donné le temps et cela a porté ses fruits, puisque Pep Guardiola vient une nouvelle fois de démontrer à la face du monde que seul le travail paye et il travaille bien et cela a porté ses fruits. Pep Guardiola prouve qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, puisque non seulement son équipe gagne, mais il gagne avec la manière. Chapeau à Pep Guardiola, qui est mon entraîneur favori.
Absolument, Amdine, vous n'avez plus besoin de le dire. On le sait bien, vous aimez bien Pep Guardiola, l'entraîneur espagnol. Vous suivez Sporama. Nous revenons dans quelques secondes. Retour sur le continent pour parler des matchs de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, prévue en janvier prochain. Les hostilités commencent ce mercredi pour certaines équipes. Trois matchs au programme, Soudan du Sud, Gambie, Sao Tomé et Principe, Guinée-Bissau, et puis Égypte-Guinée ou Guinée-Égypte à Marrakech, bien sûr. Alors Amdine, la rencontre Guinée-Égypte est une lutte pour la qualification, mais aussi une bataille pour la suprématie dans le groupe D. Les deux équipes comptent 9 points chacune.
Oui, c'est vrai que c'est un match de qualification, un match où l'équipe qui va prendre le dessus va certainement se qualifier pour la grande messe du football continental. Mais il faut le dire, on connaît quand même cette équipe de la Guinée qui, depuis quelque temps, est en train quand même de montrer de bonnes choses. Mais l'Égypte prouve encore une fois avec ce qu'il a fait lors de la dernière CAN en se qualifiant après un parcours ni fini ni raisin, que l'Égypte reste quand même le favori. Mais ce sera un match extrêmement difficile pour les deux équipes, puisque c'est un match entre le leader et son dauphin.
Yacouba.
Élisée, très rapidement, le samedi 17, il y a un match de tous les espoirs entre le Bénin et le Sénégal. On le sait, les Lions de la Teranga sont déjà qualifiés, mais les Guépas, hein, leur nouveau nom, qui sont dans un duel à distance avec le Mozambique, attendent encore.
Oui, bien évidemment. Et les Guépas ont leur destin en main. Il ne faut pas compter sur le résultat du Mozambique-Rwanda. Si le Bénin veut se rendre en Côte d'Ivoire, il suffit simplement d'abord de battre le Sénégal à domicile le samedi prochain et puis un mois plus tard d'aller chercher une victoire du côté de Maputo puisque le Mozambique est venu battre le Bénin à domicile et en cas d'égalité, le goal average particulier donnera l'avantage pour les Mozambicains. Donc, il n'y a pas de calcul, remporter les deux prochains matchs.
Alors, Jules, le dimanche 18 juin, bien sûr, le Gabon, leader du groupe I, se qualifierait en cas de victoire devant la RDC dans le duel de cette Afrique centrale, la RDC qui va mal.
La RDC qui va peut-être de mieux en mieux parce que il y a des joueurs très motivés et combatifs, des nations qui se sont mis à l'entrée de la sélection, comme le fiston Mayele qui a brillé dans une des coupes africaines des clubs et un serial buteur évoqué tellement dans tous les reportages cette année. Et je crois que dans ce match à trois qui se livre avec le Soudan, les Congolais vont mettre toutes leurs forces sur la balance et mettre en face les Gabonais et reçoivent aussi le retour d'Aubameyang qui est souvent un leader qui conditionne leur jeu offensif. Et je crois que dans cette rencontre, on risque d'avoir un chaos. Les deux équipes chercheront à s'engager totalement.
Karim Benzema, N'Golo Kanté et bien avant Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite attire les stars du football. Alors Amdine, on a vu la présentation de Benzema, 60 000 spectateurs dans une cérémonie grandiose, hein, un peu comme lors de la présentation de Cristiano Ronaldo. Comme on le dit du côté d'Abidjan, c'est quoi derrière le projet de l'Arabie Saoudite, très rapidement?
Le projet, c'est l'argent. Les jours sont des contrats, surtout les jours en fin de carrière, comme Benzema, il est en fin de carrière. Donc, quand on te propose une somme comme cette somme qu'on a proposée à Benzema, mais tu ne peux que signer. Et puis, en Arabie Saoudite, on vous donne tout. C'est vraiment signer des contrats et finir en beauté sa carrière sur le plan financier. C'est ce qui fait courir quand même les jours comme N'Golo Kanté, comme Benzema, comme Cristiano Ronaldo, et il y en aura d'autres. Malheureusement, Messi n'a pas choisi d'aller là-bas puisque lui, il a choisi de venir aux États-Unis. Mais c'est comme ça. En tout cas, les jours en fin de contrat ont bien fait d'aller en Arabie Saoudite pour gagner bien leur vie en fin de carrière.
Alors, Élisée, Amdine l'évoquait, Lionel Messi a lui refusé l'offre saoudienne pour accepter celle de l'Inter Miami ici aux États-Unis. Pendant une bonne décennie, hein, on a eu cette rivalité Messi-Ronaldo. Les deux sont maintenant hors de l'Europe, Ronaldo avant Messi. C'est peut-être la fin d'une ère, très rapidement.
Non, c'est pas peut-être la fin d'une ère, c'est pratiquement la fin d'une ère, puisque là déjà, ils ne pourront même plus jamais s'affronter. On n'aura plus de statistiques de ces deux côtés. La bonne nouvelle, c'est bien sûr que désormais, on aura leur représentant, et ça mime déjà sur le vieux continent, Edin Haaland qui a remporté la Ligue des Champions, Kylian Mbappé qui court derrière et cette Ligue des Champions, Vinicius qui l'a déjà remporté, que de prétendants hein, et que de joueurs, que d'attaquants, que de stars pour pouvoir animer de nouveau cette rivalité entre des superstars. On n'en manquera pas. En tout cas, les prochaines saisons vont nous mettre beaucoup de saveur dans notre bouche.
Voilà, qui est bien dit, très rapidement en basketball. Vous le savez, Denver hein, pourrait être consacré ce soir champion NBA. Élisée, en 15-20 secondes avec vous.
Bien évidemment, puisque très frais, hein, puisque eux, ils n'ont que fait une bouchée hein, des Lakers de Los Angeles de LeBron James, pendant que les Miami ont eu des difficultés à ce décès des Celtics de Boston, les Miami de Butler ou encore de Adebayo qu'on ne présente plus, ceux-là même qui ont dû batailler très fort pour décrocher leur qualification pour la finale. Ils ont manqué de physique, de condition. conditions physiques, hein, puisque là, ils ont
pratiquement qui est bien dit.
Alors que...
Merci beaucoup, Élisée. Merci infiniment. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à vous, hein, Élisée, à Amine Birouk, au doyen Jules Valentin Gouya Amdinsi. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute. Cette émission a été réalisée par Joselle Mauricin. Je suis Yacouba Ouidraogo. Tout de suite, une nouvelle édition du journal avec l'homme à tout fait, Jacques Aristide.